Bonjour Toufik, bonjour à tous. Plus de 750 000 candidats au baccalauréat s'apprêtent à plancher sur les épreuves écrites de philosophie ou de français ce lundi. Coup d'envoi de cette semaine de marathon sur fond de grève SNCF, vous l'entendrez. Nous reviendrons aussi sur le limogeage hier soir de Virginie Calmels, jusque-là numéro 2 du parti Les Républicains. Après de nombreuses critiques à son encontre, Laurent Wauquiez la remplace par Jean Leonetti. La fin du ramadan ce week-end et avec elle la fin de la trêve en Afghanistan. Les talibans refusent d'y adhérer plus longtemps, analyse dans ce journal. Et puis nous irons en Israël, où filmer les soldats sera bientôt interdit, puni de 10 ans de prison. Des associations poussaient jusque-là les passants à filmer des actes de violence envers les Palestiniens. Les premiers écrits du baccalauréat 2018 débutent donc ce matin avec la philosophie pour les élèves de filière générale et technologique. 753 148 candidats vont donc plancher dans les centres d'examen un peu partout en France. Une première épreuve souvent mal aimée, mal comprise, comme a pu le constater Sonia Bourane avec les élèves de Terminal S.
Quand on demande à ces élèves l'épreuve qu'ils redoutent le plus, Lorraine est catégorique.
Oh la philo, ça fait peur la philo. C'est une matière qu'on fait un an, qui tombe un peu comme un cheveu sur la soupe. Ça dépend tellement du sujet, tellement de ce qu'on a appris au fur et à mesure de l'année, des auteurs, du point de vue qu'on a aussi, et même du correcteur qui va peut-être pas avoir le même point de vue que nous, et donc il faut se défendre, et c'est vachement d'argumentation, donc un peu compliqué.
Avec la philo, Sacha a tout simplement l'impression de jouer à la roulette russe.
Ça c'est un peu du hasard. Hein. La philo, c'est soit le sujet nous plaît, soit il nous plaît pas, on le sent, on le sent pas. Puis la question peut être difficile parce qu'on a en gros une question pour 4 heures ou un commentaire. Donc enfin, c'est pas une épreuve facile. Sur la liberté, sur le bonheur, ça va. Par contre, si on va sur la politique, ça va être un peu plus difficile.
Sofiane aussi a des sujets sur lesquels il n'aimerait pas du tout tomber.
L'art et la politique, c'est des sujets qui m'inspirent pas vraiment. Je préfère tout ce qui est bonheur, désir, parce que c'est des choses qu'on a déjà ressenties. Du coup, on peut en parler plus facilement.
Alors, est-ce que la philo rend les candidats heureux? Pas besoin de 4 heures pour répondre. Visiblement, c'est non.
Une première épreuve sous la menace de la grève SNCF aujourd'hui lundi. Si la CFDT et l'UNSA ont décidé de suspendre le mouvement le temps du baccalauréat, ce n'est pas le cas de la CGT et de Sudrail. Les rectorats accepteront donc une heure maximum de retard aujourd'hui, avec si possible un justificatif. Des mesures ont aussi été mises en place avec la SNCF pour guider les candidats. Mathias Vichra est le numéro 2 de l'entreprise et il précise.
En gros, notre dispositif, c'est 4 choses très rapides. D'abord, des trains garantis la veille, des trains garantis notamment pour ceux qui acheminent vers les centres d'examen. C'est la première chose. La deuxième chose, des bus de substitution, au cas où un train ne roulerait pas. La troisième, c'est des milliers d'agents en gare, et notamment des gilets rouges avec un badge SNCF Exam, qui permettront de donner l'information la plus fiable aux candidats, dans 200 gares françaises. Et la dernière chose, ce sont des numéros d'appel qui sont accessible sur le site sncf.com dans toutes les régions pour permettre à la SNCF, par exemple, si un train a du retard, de prévenir le centre d'examen. C'est vu avec le ministère de l'Éducation nationale.
C'est un mot d'excuse.
C'est une sorte de mot d'excuse téléphonique pour indiquer que le retard n'est pas dû au candidat, mais dû à un problème de circulation. Et ce numéro permet aussi une dernière chose qu'on a déjà testée avec une centaine de candidats depuis le 14 mai. C'est la possibilité d'affréter un taxi aux frais de la SNCF pour amener le candidat jusqu'au centre d'examen.
Mathias Vichra, interrogé par Catherine Potier. Laurent Wauquiez a un nouveau bras droit au sein du parti Les Républicains. Il s'agit de Jean Leonetti, le maire d'Antibes, ancien ministre. Il remplace Virginie Calmels, limogée hier soir après 2 semaines de critiques et d'attaques directes envers le patron du parti. Elle jugeait sa ligne trop personnelle. L'annonce a été faite hier soir par communiqué, 2 lignes pas plus, Estelle Schmitt.
Officiellement, c'est une décision collégiale des membres de la direction DLR qui échangeaient coups de fil et messages avec Laurent Wauquiez depuis près de 2 semaines et qui comptaient, disent-ils, les coups portés par Virginie Calmels à sa famille politique. Ce qui a mis le feu aux poudres, c'est son entretien publié hier dans Le Parisien Aujourd'hui en France. L'ex numéro 2 accuse Laurent Wauquiez de ne défendre que sa propre ligne et de ne pas assez rassembler. Point de non-retour, s'énerve un cadre. Impossible de ne pas réagir, cela aurait été vu comme une une faiblesse de la part de Laurent Wauquiez, analyse-t-il. Énième épisode douloureux pour le parti, mais maintenant au moins les choses sont claires, veut croire une députée wauquiésiste. Et pour elle, le choix de Jean Leonetti, venu du centre, pour remplacer Virginie Calmels, prouve que Laurent Wauquiez respecte les différentes sensibilités. Virginie Calmels, elle, voulait surtout faire carrière, estime plusieurs cadres. L'un d'entre eux raconte même qu'elle espérait être tête de liste LR pour les élections européennes. Mais lorsqu'elle a compris qu'elle ne le serait pas, assure-t-il, elle a sorti les griffes.
Virginie Calmels, défendue toutefois par Alain Juppé, le maire de Bordeaux, sur Twitter. Il salue le courage et les convictions de sa première adjointe. Il a été décalé à plusieurs reprises, le projet de loi PACTE, plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises. Le voilà donc avec 2 mois de retard en Conseil des ministres ce matin. Il s'agit, selon le ministre de l'économie Bruno Le Maire, d'instaurer des mesures dites de simplification en faveur des entreprises et de redéfinir leur rôle au 21e siècle. L'exécutif qui maintient par ailleurs la pression sur General Electric. Hier, 2 membres du gouvernement ont sommé le groupe américain de respecter ses engagements en France, c'est-à-dire de créer 1 millier d'emplois nets d'ici la fin de l'année, sans quoi il devra payer des pénalités financières, 50 000 euros par emploi manquant. La droite dure l'emporte finalement face à la gauche en Colombie. Iván Duque recueille 54% des voix face à Gustavo Petro. Il devient donc président de la Colombie. Réputé conservateur et intraitable sur la question de l'ancienne guérilla des FARC, il juge que l'accord de paix signé en 2016 leur est trop favorable. Dès son élection cette nuit, il a donc promis des corrections pour, je cite, que les victimes soient au centre du processus de paix pour garantir vérité, justice et réparation. Les combats vont reprendre en Afghanistan, faute d'accord durable sur une trêve entre gouvernement et talibans, ces derniers ayant refusé le cessez-le-feu. Ces derniers jours, les deux factions ennemies avaient pourtant réussi à se rapprocher. On voyait notamment dans les rues de la capitale afghane, soldats et talibans se serrer chaleureusement dans les bras. Cette trêve laissait même croire à la communauté internationale qu'on était aux prémices d'un accord de paix durable. Mais pour Karim Pakzdad, chercheur à l'IRI, spécialiste de l'Afghanistan, aucun accord durable ne sera trouvé tant qu'il restera des étrangers sur le territoire.
Cette situation, c'est le reflet de la situation sur le terrain. Il est vrai que depuis quelque temps, on savait qu'il y a des négociations secrètes entre le gouvernement de Kaboul et les talibans. Ces informations ont été révélées par les Américains. Donc, on ne savait qu'il fallait attendre à des initiatives de paix. Mais le problème est que les talibans ne peuvent pas accepter un cessez-le-feu permanent tant que les forces américaines sont en Afghanistan. C'est-à-dire que c'est la légitimité même de l'existence des talibans dépend de cela. Les talibans ont fondé leur lutte pour combattre les forces étrangères. Voilà, c'est la raison pour laquelle les talibans, pour l'instant, ont refusé la proposition d'Ashraf Ghani dans ce cessez-le-feu permanent.
Karim Pakzad, chercheur à l'IRIS, avec David Ravier pour France Culture. Des avions de guerre ont frappé la Syrie cette nuit, frappe de la coalition menée par les États-Unis, qui visait des positions du pouvoir syrien dans l'est du pays. C'est ce qu'affirme en tout cas l'agence officielle syrienne Sanaa. Selon elle, plusieurs personnes auraient été tuées. Interdit de filmer des soldats israéliens. C'est un projet de loi qui a reçu hier l'aval du gouvernement de l'État hébreu. Depuis plusieurs années, les ONG palestiniennes de défense des droits de l'homme se sont munies de caméras pour documenter l'activité de l'armée israélienne dans les territoires palestiniens occupés. Une pratique que le gouvernement voudrait voir cesser, Marie Semelin.
Le tir qu'on entend vient d'une vidéo qui a valu 9 mois de prison aux soldats. Et Elor Azaria, on l'y voit achever un attaquant palestinien gisant au sol. C'était en 2016, filmé par B'Tselem, une ONG de défense des droits de l'homme. Son cas a divisé le pays et une partie du gouvernement, dont le très à droite ministre de la Défense, Avigdor Lieberman, s'opposait à sa condamnation. Ce projet de loi fait suite à cette affaire et vise à punir de 5 ans de prison ce type de vidéos, mais aussi photos ou enregistrements de soldats en service qui peuvent, selon le texte, démoraliser démoraliser les soldats et les civils israéliens. La peine peut monter à 10 ans s'il y a une intention de porter atteinte à la sécurité de l'État. Pour ses soutiens, la loi doit répondre aux organisations anti-israéliennes et pro-palestiniennes qui, selon eux, passent des jours aux côtés de soldats israéliens, attendant qu'un faux pas soit commis. Côté palestinien, les autorités ont, elles, dénoncé un texte qui encourage les soldats israéliens à commettre de nouveaux crimes sans devoir en rendre compte devant la justice internationale. Le projet de loi est présenté mercredi au Parlement. Il doit être voté en 3 lectures pour être adopté, mais le conseiller juridique du gouvernement a déjà averti qu'il pourrait contrevenir aux lois fondamentales de l'État d'Israël.
Aucun problème n'a été signalé près des centrales nucléaires du Japon après un tremblement de terre cette nuit, séisme, important séisme qui a fait au moins 3 morts dans la ville portuaire d'Osaka. En France, les dernières averses avant un temps lumineux pour ce début de semaine. Averses ce matin de l'Aquitaine jusqu'aux Hauts-de-France qui vont donc laisser place à des éclaircies ensuite. Pour ce qui est des températures, il fait ce matin 15 degrés à Cherbourg, 16 à Brest, 18 à Paris, Bordeaux, Clermont-Ferrand, 20 à Besançon et jusqu'à 25 déjà en bord de Méditerranée.